France Culture.
Et le journal vous est présenté aujourd'hui par Mathilde Ansker. Bonjour Mathilde.
Bonjour Chloé, bonjour à Chloé. Toutes et à tous. L'Angleterre et la France se mettent d'accord sur le sort des migrants et proposent un projet qui provoque déjà l'inquiétude des élus locaux. On entendra la maire de Calais dès le début de ce journal. Nous irons aussi au Texas une semaine après les inondations, alors que la polémique enfle sur la gestion de la catastrophe. Les habitants, eux, scrutent toujours les forêts et les cours d'eau à la recherche de leurs disparus. Nous serons aussi en Syrie où la commission d'enquête nationale rendra bientôt ses conclusions sur les massacres de la minorité alaouite. Et puis à Fresnes, où une famille porte plainte après le suicide d'un détenu en détention. Enfin, des airs de Puy du Fou, des subventions venues de proches de l'extrême droite et une fresque de l'histoire de France. On vous explique la polémique autour d'un spectacle à Moulins dans l'Allier. Alors que les traversées de la Manche atteignent des chiffres records, la France et le Royaume-Uni s'accordent sur un projet concernant les migrants. Un projet pilote qui doit encore être validé par la Commission européenne. On va y revenir dans un petit instant. Mais d'abord, restons en France. La France où ce projet n'est pas du goût de certains élus locaux. Les élus du littoral qui sont en première ligne dans la crise migratoire et se sentent déconsidérés. Les explications d'Anne Fauquemberg.
Ce projet, qui doit encore être précisé, prévoit le renvoi en France d'un migrant arrivé illégalement au Royaume-Uni par petit bateau en échange d'un autre exilé se trouvant déjà en France et ayant exprimé sa volonté via une plateforme en ligne de s'installer au Royaume-Uni, justifiant de ses liens avec ce pays. Le chiffre de 50 migrants par semaine à échanger, selon ces termes, chiffre sorti dans la presse britannique, n'a pas été confirmé, mais le principe suscite déjà beaucoup de réactions sur le terrain en France. Dès hier soir, Natacha Bouchard, la maire de Calais, s'est déclarée choquée par ce projet pour lequel elle n'a pas été associée.
On va se retrouver dans un étau, car on a aujourd'hui du mal à gérer en fait la problématique des passages, des arrivées. Et maintenant, on va devoir gérer les migrants que le gouvernement britannique aura choisi de renvoyer en France. Et quand on dit en France, c'est pas à Paris ou à Marseille ou au Touquet, ça va être sur Calais, sur Grande-Synthe et sur les collectivités qui sont déjà impactées.
Natacha Bouchard, interrogée sur France Info, la maire de Calais a dès hier soir appelé le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, au nom du collectif des maires du littoral pour exprimer son mécontentement. Elle craint en effet que les personnes renvoyées par le Royaume-Uni viennent s'ajouter à celles qui se trouvent déjà en errance sur son territoire avec des problématiques, selon elle, de troubles à l'ordre public. Faire des belles annonces, c'est bien, mais nous sommes des maires, des gens pragmatiques, a-t-elle dit au ministre, qui devrait organiser ses prochaines semaine des discussions avec les élus locaux.
Et justement, le président LR de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, lui fustige aussi cet accord. Un accord bon pour les Anglais, mais mauvais pour la France, selon lui. Alors si ce projet ne fait pas que des heureux dans l'Hexagone, eh bien, il en est de même à Bruxelles. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour.
Notre correspondant en direct depuis Bruxelles, Fabien, le projet doit encore être validé par la Commission européenne.
Oui, car depuis le Brexit, il y a 5 ans, la zone Manche-Mer du Nord est devenue une frontière extérieure de l'Union européenne. L'agence Frontex déploie donc des effectifs sur les côtes du nord de la France. Des renforts ont d'ailleurs été annoncés encore hier, aux côtés des policiers français. Et c'est à ce titre que la Commission européenne aura un droit de regard sur l'accord franco-britannique intervenu hier. Que fera la France des migrants renvoyés par Londres, s'inquiètent d'autres pays européens. Seront-ils ensuite reconduits vers les pays par lesquels ils sont entrés pour la première fois dans l'espace européen? Des questions on ne peut plus sensibles dans l'ambiance politique du moment, où la tendance en Europe est plutôt à la fermeture qu'à l'ouverture des frontières, y compris au cœur de l'Union européenne, au sein de l'espace Schengen, où des contrôles aux frontières sont partiellement rétablis.
Merci Fabien Cazot en direct de Bruxelles. Le Kremlin a fait de la France une de ses cibles prioritaires. Déclaration ce midi du chef d'état-major des armées, le général Thierry Burkhard. Selon lui, la France est le premier adversaire de Moscou en Europe, touché notamment par une guerre informationnelle. Le militaire évoque notamment l'affaire du couple de Moldaves interpellé il y a 2 ans pour avoir tagué une étoile de David sur un mur à Paris. Donald Trump est attendu au Texas aujourd'hui. Le président américain doit rencontrer des familles sinistrées une semaine après les inondations qui ont fait plus d'une centaine de morts et au moins 160 disparus. Trump cherchera aussi à faire taire les critiques sur sa gestion de la catastrophe et les questions de plus en plus pressantes sur les conséquences des coupes budgétaires voulues par son administration. Des coupes notamment sur la FEMA, l'agence nationale qui doit intervenir lors de catastrophes naturelles. Des considérations politique donc, mais qui semble encore très loin à Hunt. C'est le comté le plus touché par ces inondations. Et sur place, les habitants cherchent encore leurs disparus, Edouard Maille.
Une équipe scrute la forêt sur la rive du fleuve pour les personnes disparues. Heather est venue prêter main forte et espère retrouver sa nièce, Briley. Briley aurait dû fêter son anniversaire, 7 ans ce mercredi. Elle faisait partie du camp de vacances pour jeunes filles ensevelies par l'inondation.
J'espère juste qu'ils la retrouvent. À ce point, ce serait mieux s'ils la retrouvaient morte que pas du tout. On prie seulement pour qu'elle apparaisse.
Malgré les questions autour de la réponse des autorités locales ou nationales, Chris Saldana, tronçonneuse à la main, dit vouloir accueillir Donald Trump comme il aurait accueilli n'importe quel président.
Nous avons besoin de toute l'aide possible. Avec ce genre de moment, vous vous en fichez des différences politiques. Vous voulez juste de l'aide.
Son ami, Juan King, entasse des troncs d'arbres. Lui ne voit pas l'intérêt de ces polémiques.
Quand vous critiquez quelque chose en le pointant du doigt, parfois il vaudrait mieux juste arrêter de lever le petit doigt et venir ici et aider les gens. Utiliser cette énergie pour quelque chose de positif et aider.
Juan King trouve un maillot pour enfants floqué du numéro 9. Il fait un signe de croix et se remet au travail.
Le reportage d'Edouard Maille. Un prix Nobel de la paix en danger en Iran, Narges Mohammadi, distingué en 2023 pour son combat contre l'oppression des femmes dans son pays et pour la promotion des droits de l'homme. Le comité Nobel alerte sur son sort ce midi. La militante serait menacée par le régime des Mollahs. Selon le comité, sa sécurité est en jeu à moins qu'elle ne mette fin à tout engagement public et apparition dans les médias. Et puis toujours en Iran, le jeune franco-allemand disparu a été arrêté pour un délit, annonce ce matin du chef de la diplomatie iranienne qui ne précise pas la nature de ce délit. Lénar Monterlos, 18 ans, n'a pas donné signe de vie depuis près d'un mois. Le jeune homme se rendait au Japon en vélo. Il est désormais le troisième Français détenu en Iran. Plus de 4 mois après les exactions commises contre la communauté alaouite en Syrie, la commission d'enquête nationale doit rendre ses conclusions dans les prochains jours. Ce rapport devait initialement être présenté en mars. Plus de 1700 civils ont été tués. La plupart sont alaouites, une minorité dont est issu le dictateur déchu Bachar al-Assad. Des factions islamistes radicales ainsi que certains hommes rattachés à la sécurité générale du nouveau gouvernement sont pointés du doigt. Mais en attendant, les violences continue et la minorité alaouite est inquiète. Reportage dans le village syrien de Mashkita, signé Manon Chaplin.
C'est dans une petite salle accolée à la mosquée de Mashkita que des dizaines de femmes se sont retrouvées, toutes habillées de noir, la mine grave, pour rendre hommage à 5 hommes, tous agriculteurs, tous alaouites, tués à la fin du mois de mai dernier.
2 hommes sont arrivés sur une moto, on ne voyait que leurs yeux. Ils étaient armés, l'un d'une kalachnikov, l'autre d'un pistolet.
Ce seul survivant de l'attaque poursuit. Le motard à la kalachnikov a ensuite exigé de prendre leur téléphone avant de tirer sur les 6 hommes.
On est tous tombés par terre. J'ai senti que j'avais du sang qui coulait dans mon dos, mais je n'ai pas bougé. Je suis le seul survivant de ce massacre.
Le frère d'Armad, c'est un prénom d'emprunt, a été tué sur la côte début mars. Depuis, il peine à faire confiance à la sécurité générale qui a partout été déployée, tout comme à la commission d'enquête gouvernementale auprès de laquelle il a été convoqué.
Ils ont récolté nos témoignages depuis la mairie durant une journée, une seule journée. Et ils ne sont pas allés voir toutes les personnes qui ont été directement témoins de ces massacres. Il fallait aller les voir.
Une récente enquête de Reuters retrace une chaîne de commandement jusqu'à Damas lors des massacres de mars et montre la responsabilité de certains groupes aujourd'hui sous l'autorité du nouveau pouvoir.
Reportage de notre correspondante en Syrie, Manon Chaplin. C'était il y a 30 ans, jour pour jour, le début du massacre de Srebrenica en Bosnie-Herzégovine. 8000 personnes, membres de la communauté musulmane bosniaque exécuté par l'armée des Serbes de Bosnie. Le génocide en Bosnie est reconnu 12 ans plus tard, en 2007. Des commémorations sont organisées sur place aujourd'hui. Plus de 150 000 personnes sont attendues. La famille d'un détenu qui s'est suicidé à la prison de Fresnes porte plainte contre X pour homicide involontaire et non-assistance à personne en péril. Morgan, 24 ans, a mis fin à ses jours en novembre dernier après 9 mois de détention provisoire. Sa famille estime que l'administration pénitentiaire n'a pas mis en place de moyens suffisants pour l'en empêcher. Et ce, malgré de multiples alertes, Florence Turm.
Morgan, âgé de 24 ans, est placé en détention provisoire à Fresnes en février 2024. Un jeune homme jusqu'alors inconnu des services de police et de la justice. C'est sa première incarcération et très vite, il manifeste des signes de mal-être et de dépression à la fois auprès de ses proches et du juge d'instruction qui transmettent l'information à l'administration pénitentiaire. Le jeune détenu va faire 3 tentatives de suicide en absorbant des médicaments en mars, en avril, puis en octobre, avant qu'on ne le retrouve pendu dans sa cellule le 29 novembre 2024, à l'issue donc de 9 mois de détention, d'où le sens de cette plainte, explique l'avocat de la famille, Antoine Horry.
C'est effectivement le sens de cette plainte, c'est d'essayer de comprendre exactement pourquoi est-ce que tout n'a pas été mis en œuvre pour éviter ça, quel était le degré exact de connaissance de l'administration pénitentiaire de la fragilité de Morgan, mais il nous semble assez important. Au regard du nombre de signalements, au regard du nombre de fois où il a été reçu en audience par des membres de l'administration pénitentiaire, il ne pouvait pas ignorer qu'il présentait de grandes fragilités sur le plan psychologique et que sa volonté de s'anéantir était, semble-t-il, solidement ancrée.
Homicide involontaire, non-assistance à personne en péril. À ces 2 motifs de plainte, la famille du jeune homme vise également une 3e infraction plus singulière, l'atteinte à l'intégrité d'un cadavre. Lorsque le corps a été présenté à sa mère à l'Institut médico-légal, il était dans un état de décomposition avancée, ce qui laisse présumer des dysfonctionnements dans la manière dont il avait pu être conservé juste après le suicide en détention.
Et à ce stade, l'administration pénitentiaire ne fait pas de commentaires sur cette affaire. L'année dernière, 149 personnes détenues se sont suicidées en France, dont 4 mineurs. 3 députés contraints à démissionner. Le Conseil constitutionnel les déclare inéligibles car leur compte de campagne présente des irrégularités. Jean Lossuc, Stéphane Vogetta et Brigitte Barège ont interdiction de briguer un mandat pendant 1 an. Les 2 premiers appartiennent au groupe Ensemble pour la République. Brigitte Barège, elle, est membre de l'UDR. Des législatives partielles seront organisées dans leur circonscription pour réélire 3 nouveaux députés. 109 personnes sont mortes noyées au mois de juin, un chiffre en forte hausse, plus 58% par rapport à l'année dernière, et qui s'explique selon Santé publique France par les températures très élevées qu'on a relevées fin juin, les fortes chaleurs qui ont entraîné un afflux de population vers les sites de baignade. Retour de mission pour l'Atalante, ce bateau chargé de cartographier des milliers de fûts de déchets radioactifs immergés au fond de l'Atlantique Nord-Est, des fûts dont se sont débarrassés des pays européens entre 1946 et 1993. C'était à l'époque considéré comme une solution de gestion des déchets. Sur près de 200 000 fûts jetés à l'eau sur la période, les scientifiques en ont cartographié 3350 lors de cette mission. Pour le moment, ils n'ont constaté aucune radioactivité anormale, mais des mesures plus fines doivent encore être faites en laboratoire. Mesures sur des sédiments, de l'eau, mais aussi des poissons. Et puis, 3 jours de représentation, plus de 300 figurants, 2100 spectateurs annoncés et une grosse polémique. Voilà ce qui attend la ville de Moulins dans l'Allier. À partir de ce soir et tout ce week-end s'y déroule un spectacle. Murmure de la cité, c'est son nom. Il se présente comme une fresque de l'histoire de France, de Vercingétorix à la Seconde Guerre mondiale en passant par Napoléon. Mais depuis des mois, des voix s'élèvent pour dénoncer une revisite idéologique de l'histoire française et surtout des subventions controversées, Willy Moreau.
C'est le député communiste de la première circonscription de l'Allier qui a dégainé en premier.
Pour savoir jouer mon rôle de lanceur d'alerte.
Yannick Monet dénonce la présence du fonds du bien commun parmi les sponsors, un fonds créé par le milliardaire conservateur et proche de l'extrême droite, Pierre-Édouard Sterrin.
Pierre-Édouard Sterrin mobilise des moyens financiers importants pour faire en sorte que l'extrême droite arrive au pouvoir. Pierre-Édouard Sterrin ne finance pas des projets culturels pour développer la culture. Le Fonds des biens communs ne finance pas le festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, par exemple. Et bien, quand on fait le choix d'être financé par Pierre-Édouard Sterrin, ça veut dire qu'on fait le choix de participer à son projet politique.
Pas du tout, se défend le président de Murmure de la Cité, Guillaume Senet, à l'origine de ce projet il y a 2 ans.
On parle de M. Sterrin, de soutien à l'extrême droite, etc. Ce n'est pas mon affaire. Et voilà, notre affaire, nous, c'est de rassembler. Peut-on dire que l'histoire de France soit d'extrême droite ? Faut-il être d'extrême droite aujourd'hui pour aimer la France ? J'en suis pas convaincu et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fondé Murmure de la Cité. C'est que je pense qu'on peut réunir un peuple derrière l'histoire de France.
Mais quelle histoire de France exactement? Vercingétorix, Clovis, Jeanne d'Arc, Sainte-Jeanne de Chantal ou Napoléon? Le collectif Auvergnat des archéologues en lutte dénonce des choix dépassés, voire idéologiques. Guillaume Senet répond sèchement. Ces personnes n'ont pas vu le spectacle.
Et justement, avant le spectacle, une manifestation est organisée en fin d'après-midi, tout à l'heure à Moulins, toujours pour dénoncer ce projet. Mobilisation à l'accueil de plusieurs organisations comme la CGT et le SNES-FSU. Enfin, un mot de météo à midi 45 sur France Culture. Quelques nuages vont circuler le long des frontières du Nord-Est pour s'étendre dans l'après-midi entre les Ardennes et le Grand Est. Partout ailleurs, c'est du soleil, un ciel bleu qui tourne à l'orage pourtant dans les Pyrénées. Côté température, comptez entre 27 et 35 degrés pour les maximales. C'est la fin de ce journal réalisé par Alison Vicrobeck. Retour de l'info ce soir à 18h et tout de suite, c'est les Midis de Culture avec Chloé Cambrolin. Rebonjour Chloé.
Rebonjour et merci Mathilde Ansker.
France Culture. Les Midis de Culture. Chloé Cambrelin.
Retour au Festival d'Avignon dans la cour du cloître Saint-Louis et avec nous jusqu'à 13h, Émilie Rousset, bonjour.
Bonjour.
Vous créez ici Affaires familiales qui s'écrit au pluriel et s'entend dans le domaine du droit. Nouvelle création qui part de témoignages que vous avez recueillis auprès d'avocates, d'avocats, justiciables, militants, militantes en France, mais aussi en Italie, au Portugal, en Espagne. Ce sont vos questions et leurs paroles que nous entendons dans ce spectacle par l'intermédiaire de comédiennes et comédiens qui évoluent entre deux gradins de public qui se font face. Vous travaillez depuis longtemps, Émilie Rousset, à partir d'archives. On peut citer notamment votre pièce Reconstitution, le procès Bobigny, en 2019 puis 2024. Parfois, comme ici, vous contribuez à les former, à les créer, les archives, par la collecte. Qu'est-ce qui vous attire dans ce travail-là, dans cette matière-là, au départ ?
Oui, ça fait une dizaine d'années que je déploie une écriture théâtrale qui se construit à partir d'archives et de matières documentaires. Dans les matériaux documentaires que je récolte moi-même, comme c'est le cas pour Affaires familiales, ce qui m'intéresse aussi vraiment théâtralement, c'est que c'est de la parole vive, de la parole échangée que je récolte et que ça donne une matière théâtrale très spécifique issue de l'oralité qui n'existerait pas par écrit. Et ce qu'on réactive, ce qu'on rejoue et ce qu'on partage avec le public, c'est aussi la rencontre et la façon dont la rencontre se tisse par le langage, par des choses qu'on dit, des choses qu'on dit pas, des choses qui s'entendent alors qu'on ne les a pas dit. Et c'est cette matière-là qu'on sculpte théâtralement.
Alors, il y a un dispositif, voilà, il y a une matière, un rapport à cette matière, ce qu'elle peut donner quand elle devient un théâtre. Et puis, il y a le choix du sujet, du domaine où vous allez. Donc ici, le droit de la famille, les affaires familiales. Qu'est-ce qui vous a amené à cet endroit ?
Ben, vous citiez la pièce que j'ai créée en 2019 avec Maya Bocquet, Reconstitution, le procès de Bobigny. C'est vrai qu'Affaires familiales est une pièce un peu jumelle, ou en tout cas en écho, dans la continuité. En 1972, le procès mené par Gisèle Halimi fait changer la loi en France pour que les femmes puissent choisir, puissent librement disposer de leur corps et choisir d'avorter si elles le souhaitent. Et en travaillant sur cette pièce qui constituait à déplier l'archive de 1972 avec des témoignages contemporains, c'est la question du militantisme et du droit, la porosité entre la société, ce qui nous anime, et l'institution judiciaire et comment tout cela communique. C'était aussi la question de sujets qu'on peut penser intimes, qu'on peut penser de l'ordre de liberté individuelle et qui en fait sont des sujets collectifs et qui sont même le socle de nos démocraties.
Il fait pas chaud, hein. Comme c'était fermé, j'avoue, j'ai pas mis de chauffage. Vous voulez que je mette du chauffage ?
Non, ça va. Si on peut s'entretenir...
Oui, j'ai bloqué ce matin.
Ben, c'est très gentil d'avoir bloqué pour moi.
Non, je me suis organisée. Pas de difficulté.
Alors, vous m'aviez dit, là, sur le droit de la famille, il faut être passionné, c'est-à-dire ?
Bah, vous touchez au plus profond de l'être humain, en fait. Au ressenti, à l'amour, la haine, l'urgence, la blessure, la peur, la violence. Et donc vous touchez au cœur.
La famille, c'est le lieu de l'intime par excellence et en même temps, ce qui se joue dans toutes les affaires dont il est question dans Affaires familiales concerne la société. Est-ce que c'est pour ça aussi que ces paroles doivent être ou peuvent être, ou qu'il y a un sens en tout cas à les porter au théâtre, c'est-à-dire à les faire entendre justement.
Oui, c'est vrai que c'est une histoire. Ce qui tisse aussi la dramaturgie de cette pièce, c'est l'histoire des récits, c'est-à-dire comment il y a des histoires qu'on entend, des histoires qu'on n'entend pas du tout. Par exemple, la pièce parle aussi de l'inceste, le déni face à ces histoires-là de la part de la société et de la part de l'institution judiciaire est énorme. La pièce parle aussi des parentalités LGBT, et même si en France, aujourd'hui, ce sont des familles qui sont acceptées par la loi et par la société tout de même, mais quand même la compréhension de ce type de famille, du fait que le lien génétique n'est pas forcément premier dans le lien à l'enfant, comment est-ce que ces lignes bougent et comment ces lignes peuvent bouger en écoutant les récits? Et quelle est notre perception des récits? Comment est-ce qu'on les prend en charge collectivement et comment ça change la vie des gens?
Oui, parce que, en effet, cette question de comment la société réagit face à ces affaires, face à ces questions, est très présente dans la pièce même. C'est-à-dire, à un moment donné, vous parliez de l'inceste, il y a effectivement un long passage, enfin un des 9 tableaux, une des 9 rencontres qui porte vraiment sur ce sujet-là. Et à un moment donné, il est dit, ça n'est pas entendable, ça n'est pas entendable. Et là, justement, vous nous faites entendre ça, et le dispositif du théâtre, le fait qu'il y ait le public autour, crée une écoute qui, précisément, semble faire défaut, en fait, dans beaucoup de ces affaires-là.
En tout cas, oui, le dispositif, c'est un dispositif scénographique proposé, créé par Nadia Lauro, et ça, c'est un bifrontal. Et c'est vrai que quand Nadia a proposé ça, tout de suite, ça m'a paru absolument essentiel, parce que ce que je voulais vraiment, je ne voulais pas faire une pièce qui dénonce de loin des manquements de l'institution judiciaire. Je voulais faire une pièce qui nous convoque, nous, en tant que société, part active de cette institution. Donc, le bifrontal raconte ça. On se regarde écouter.
Exactement. Alors, là, on a entendu, donc, dans l'extrait, une question posée, des réponses. Donc, c'est issu des entretiens que vous avez menés, mais ça n'est pas votre voix qu'on a entendu poser la question, ça n'est pas non plus la voix de l'avocate qui vous a répondu, que l'on a entendu là. Ce sont des comédiennes, comédiens. Comment se fait ce passage-là, et finalement, qu'est-ce que